Vous écoutez, on lit pour vous.
Le soleil de Jean-Pierre Coallier, un texte de Pauline Gravel, paru le 16 octobre 2025 dans Le Devoir. À 87 ans, l'œil vif, le sourire, Pierre Coallier garde la superbe de son incontestable talent de communicateur. L'ancienne vedette des talk-shows québécois accompagne chacune de ses phrases d'un geste. Ses mains, larges ouvertes, semblent étaler son discours devant lui pour qu'on puisse non seulement l'entendre, mais le voir. Tient du plat de la main, comme pour être certain que ces mots se rendent bien jusqu'à moi. Il rit et bientôt il pleure. Bon, je vous fais du spectacle, monsieur Nadeau. Comme pour s'excuser de sa sensibilité, lorsqu'il se remémore, comme il le fait devant moi, les suites de son AVC, les émotions, le gâteau, le double, et puis le conduisent dans l'horizon des plus tristes souvenirs. Ce sont les moments les plus durs de ma vie, me dit-il en essuyant ses joues. Je me suis rendu compte de ce que j'étais au jour où je n'étais même plus capable de dire « Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles. » Un communicateur qui ne peut plus communiquer, qu'est-ce que c'est? Tout a basculé en 2009, et cela continue depuis de bousculer sa vie. Quelle expérience terrible! Je revenais de Québec. J'avais passé la journée pour régler des problèmes avec une de mes... Au retour, je me suis arrêtée à mes bureaux à Montréal. J'échappais tout bonnement mes clés par terre, j'étais incapable de les reprendre, même à deux mains. 3 semaines à l'hôpital, aphasique. Des mois en s'en remettre, puis un objectif, revenir en onde. Il s'astreint à tout en poursuivant ses rencontres avec des spécialistes. Je me rendais en studio, je me mettais un crayon en travers de la bouche, puis j'essayais de lire un texte, n'importe quoi. Je n'y arrivais pas. Je rentrais chez moi complètement épuisé. Le soir, j'y retournais, je recommençais, enregistré, j'ai pu arriver à communiquer de nouveau. À l'hôpital, on lui propose de faire profiter de sa méthode quelques patients. J'en ai amené avec moi en studio, 5 ou 6 peut-être. Ils étaient exactement dans la même situation que moi, incapables d'articuler une phrase. Ça fonctionnait pour eux aussi. Mais bon, ce n'est pas mon métier, la réadaptation. Moi, c'est revenir en onde que je voulais. Après 1 an d'entraînement, Jean-Pierre Coallier retourne devant un micro. Pour tenir, je devais désormais tout écrire. C'était la seule façon d'être certain de ne pas tripler. Diriger une radio dans cette condition, c'était difficile. À son cœur défendant, il vend ses stations. Depuis, confie-t-il, il n'y a pas un jour où il n'a pas rêvé de retrouver un micro. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai rêvé que Radio-Canada m'appelait pour me confier une émission. Répandre la joie. À travers la vie de M. Coallier, c'est non seulement l'histoire de la radio qui défile, mais celle de la télévision. Au petit écran, l'animateur sera à la barre de plusieurs émissions populaires. À la télé, j'ai été parmi les premiers à être diffusés le matin. La direction, qu'il y avait aussi des auditeurs à cette heure et que personne ne s'en occupait. Au début des années 1960, sur les ondes de Télémétropole, il anime une émission qui crée une petite révolution, Métro Matin. C'est la première matinale à la télévision au Canada, elle fait école. Mais tout commence à la radio. Très tôt, il travaille sa diction. Jean-Pierre Coallier adopte une langue qui se veut conforme à ses modèles. René Lecavalier, Roger Beaulieu, Roger Lebel, mais aussi Doris Lussier, qu'il estime pour sa fantaisie. Et pour lui, le fait d'un accent travaillé. Adolescent, il propose ses services partout, jusqu'à finir par être repêché par l'antenne de CFRB à Sudbury. C'était en mai 1958. Il sera ensuite à la télévision du côté de Timmins. Notamment ses talk-shows d'inspiration américaine ne seront jamais envisagés en matière de critique sociale ou politique. Mon ami le cardinal Léger disait « Répandez la joie et le monde sera meilleur ». Pour répandre la joie, je n'allais pas dire « Nous avons un gouvernement de chiens. » Il n'en pense pas moins, dit-il. Ami du cardinal Léger, oh oui, je suis même allé le voir en Afrique. À la fin des années 50, c'est Jean-Pierre Coallier qui articule la présentation de Chapelet en famille, une émission religieuse animée par le cardinal. Personne ne voulait faire ça, alors je l'ai fait. Il se souvient encore en riant du récitatif qui lançait cette quotidienne. Directement de l'archevêché, nous vous présentons l'émission Chapelet en famille. Un quart d'heure de recueillement et de prière pour l'obtention d'une paix durable dans le monde. Comme beaucoup de Québécois, je suis né dans une famille croyante. Le jésuite Richard Arès, ancien directeur de la revue Relations, est son oncle. J'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai cessé d'aller à la messe à l'époque où j'animais l'émission « Jeux d'hommes » 1965. Les gens trouvaient l'émission. On parlait à voix basse de moi quand je me présentais à l'église, alors j'ai arrêté d'y aller. Le public se souvient beaucoup de Jean-Pierre Coallier pour Adlib, 86-95. C'était un talk show du genre de celui de Johnny Carson ou de David Letterman. de 1,5 million à 2 millions d'auditeurs tous les soirs. Avec cette émission en particulier, il dit avoir appris une chose fondamentale. Savoir fermer sa gueule. J'ai compris que ce n'était pas moi qui faisais le spectacle, mais les invités. Dessiné pour se relever. Les années 60 et 70, en plus de tout le reste, l'animateur livre chaque jour une caricature pour les pages du journal Montréal Matin. Entre la radio, la télé, la direction des stations, je faisais mon dessin quotidien. Il m'est resté ça de mes études aux Beaux-Arts. Quand je me suis remis à dessiner pour le CHUM. Le centre hospitalier a publié 18 fascicules de ses dessins sous le titre « Je rallume mon cerveau ». Il s'agit d'un complément à un programme de réadaptation voué à faire travailler de nouveau les ménages blessés. J'en dessine encore un. Face au fleuve, dans la chaleur enveloppante de la verrière de son appartement d'Habitat 67, il me montre ses derniers croquis. « Je n'ai plus que ça à faire, dit-il, à l'heure où il peste contre de nouveaux ennuis de santé. » L'exposition prolongée au soleil lui a fait développer un vicieux cancer dont il tente de contrôler les résurgences possibles. Habitué des ciels bleus de la Guadeloupe, où il est propriétaire d'un moulin de 1827, il paye cher le plaisir des rayons du soleil. Lumière de la musique. Tout notre entretien est baigné par la lumière de la musique. D'où vient cette passion? Quand j'étais petit, c'est ce que nous écoutions à la maison. Ses parents possédaient un dépanneur dans le quartier populaire de Rosemont. Je jouais à l'animateur de radio, installé dans une boîte de carton. Je disais, on va maintenant passer du Beethoven. Ma sœur donnait un coup de pied dans la boîte pour que j'arrête. Dans un milieu populaire, la musique classique tenait donc une place importante? Oui, tout à fait. Cette musique appartenait à tout le monde. Il rit. Et ses yeux sont de nouveau pleins de larmes. Radio classique, CJPX-FM. Et c'est mon plus grand chagrin d'amour. J'en rêve encore. Je suis en deuil depuis 10 ans. Il est branché presque en permanence sur CBC Radio 1. Les anglophones ont encore de la musique classique à la radio, eux. Il y a bien Radio Ville-Marie qui, en français, diffuse des grands bouts de musique. Mais ce n'est pas le genre de radio qui m'intéresse. Très vite dans sa vie, Jean-Pierre Coallier a voulu posséder ses propres stations. Pourquoi? Parce que je voulais faire ce que je voulais à ma manière. Mon grand rêve, vraiment, était d'avoir une station de musique classique. J'en racheterai une. C'était Le soleil de Jean-Pierre Coallier, un texte de Pauline Gravel, paru le 16 octobre 2025 dans Le Devoir.
Le recrutement d'infirmières à l'étranger, un avion qui s'est construit en plein vol. Un texte de Lise-Marie Gervais, paru le 27 mars 2024 dans Le Devoir. On se dit souvent que c'est un avion qui s'est construit en plein vol. Philippe Beauchemin, agent d'intégration pour l'organisme Haute-Gaspésie Me Voici, ne se raconte pas d'histoire. À l'automne 2022, sa région, pionnière de la phase 1 du programme visant à recruter 1000 infirmières diplômées hors Canada, IDHC, a trouvé difficile l'accueil de sa première cohorte. À Sainte-Anne-des-Monts, ce sont 10 étudiants du Maghreb et du Cameroun sur un total de 37 dans la région, Chandler, Maria et Gaspé, qui sont arrivés avec leur famille. Nous, on a accueilli 10 étudiants, mais au total, on parle de 40 personnes. Et 40 personnes de couleur, dans une ville de moins de 7000 habitants, majoritairement blancs et catholiques, c'est un bouleversement complet, a-t-il dit. Selon lui, les organismes n'étaient pas du tout prêts. Les défis d'un tel programme financé par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration ont-ils été sous-estimés? Je pense que oui. Dans la phase 1, il y avait une incompréhension de ce que c'était. C'est comme si on avait pris des gens et les avait catapultés en région éloignée en disant « Occupez-vous-en », relate M. Beauchemin. On a fait de notre mieux. Violence et arnaque. Sans surprise, le logement a été le problème numéro un. Certains propriétaires en ont profité pour hausser le coût du loyer. Les étudiants s'étaient écrits CI3S dans leur front. Alors, il y a eu de l'exploitation, de la violence psychologique et beaucoup d'arnaques, a dit M. Beauchemin. À Gaspé, où 400 travailleurs temporaires et étudiants sont sur le territoire, la crise du logement est plus sévère, souligne pour sa part Steve Fournier, directeur du service d'accueil des nouveaux arrivants de la côte de Gaspé. le manque de place en garderie a été l'autre problème majeur. Il n'y en a pas. Le ministère m'appelle et me dit que je dois trouver 2-3 places en garderie pour les IDHC. Je veux bien, mais je ne peux pas les laisser passer en priorité. À cela s'ajoute le défi du transport, qui oblige les étudiants à payer les coûts imprévus d'une voiture. Former ces futures infirmières dans les divers campus du cégep n'a pas été une mince tâche. 3 candidats ont échoué. Notre système d'éducation est différent du leur, et c'est un programme qui est costaud, a fait remarquer Manuel Anne Boissonneau du cégep de la Gaspésie et des Îles. Les étudiants devaient changer d'établissement et se déplacer de ville en ville pour faire les laboratoires avant que ces derniers ne soient aménagés à même les salles de classe par la suite. De la terreur à la joie. À l'automne 2023, l'accueil de la deuxième cohorte a été tout autre, selon Philippe Beauchemin. Ce qu'on voyait dans les yeux de la première cohorte, c'était de l'anxiété, de la terreur et du mécontentement, dit-il. Mais avec la deuxième cohorte, c'est de la joie qu'on a vue. Selon lui, la grande erreur avec la première cohorte a été le manque de communication entre les divers partenaires. Avec la deuxième cohorte, on s'est toujours parlé. On était mieux préparé et on a développé une grosse semaine d'accueil. Le contact en amont a également été établi beaucoup plus tôt avec les participants, ajoute-t-il. À Gaspé, la deuxième cohorte d'étudiants a également pu bénéficier de l'embauche d'une personne supplémentaire qui s'est consacrée à la recherche de logements pour les participants de 3 régions, Chandler, Gaspé et Maria. C'est positif, a reconnu Steve Fournier, mais ça en prendrait une par MRC. Des résidences étudiantes seront construites à Maria et à Gaspé pour soulager le parc locatif. C'est dans les mains de la Société de l'habitation du Québec, a précisé Lou Landry, responsable des communications du CI3S de la Gaspésie. Après tous ces efforts, il ne reste plus qu'à espérer que ces personnes réussissent l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers qui a eu lieu mardi et reste dans la région, avance M. Landry, qui dit avoir confiance. Ce qu'on entend, c'est que ces personnes-là ont la volonté de demeurer ici. C'était le recrutement d'infirmières à l'étranger, un avion qui s'est construit en plein vol, un texte de Lise-Marie Gervais, paru le 27 mars 2024 dans Le Devoir.
Création et confection de vêtements à mode retaille. Texte de Nathaël Morissette, paru le 22 septembre 2025 dans La Presse. Au moment où des géants de la mode jetable comme Shein et Temu percent de plus en plus de marchés, Pascal Villot, dans son atelier boutique, crée et confectionne des vêtements avec des retailles de tissus et des jeans usagés. À l'instar du souper préparé avec les restants du frigo, les jupes, robes et chandails créés donnent des résultats presque uniques, difficiles à reproduire une deuxième fois. Des chandails avec un tissu, je peux en faire 5 et après ça, c'est terminé. Le modèle peut revenir, mais c'est le textile qui va changer, explique Pascal Villot. Celle qui se définit comme étant éco-designer et qui a mis sur pied il y a 14 ans une entreprise portant son nom, crée à partir de ce qu'elle trouve. Des retailles de coupe, des fins de rouleaux de manufacture qui ont acheté trop de tissus, des lots d'échantillons de début de collection et des dons de jeans usagés. Les vêtements accessoires nés de tissus sauvés avant qu'ils ne prennent le chemin de la poubelle sont vendus dans son atelier boutique et chez Empreinte, une coopérative d'artisans et de designers québécois située dans le Vieux-Montréal. « Quand j'ai commencé à créer, je ne savais pas trop ce que je faisais », raconte-t-elle en riant. « J'ai toujours été créative, j'ai toujours fait de la couture. » Je faisais des choses à partir de ce que je trouvais, de vêtements que je transformais. J'ai eu rapidement des commandes. C'est ancré en moi, le fait de récupérer et d'utiliser ce qu'il y a à portée de main. A-t-elle de la difficulté à s'approvisionner en restant de tissus? Les gens au début me demandaient « Tu n'as pas peur d'en manquer ?» se rappelle-t-elle. Je pense que j'ai fait mon nom avec les années. Maintenant, c'est rendu qu'on m'appelle et qu'on me demande « As-tu besoin de ça ?» J'en ai plus que moins. Ce n'est pas un problème. Des fois, ce sont des chaînes qui font faillite. J'ai eu beaucoup de tissus de chez Jacob. Le détaillant québécois de vêtements pour femmes a fait faillite en 2014. Don de jeans. En plus des surplus de tissus neufs, l'entrepreneur confectionne des vêtements avec des jeans usagés qui, selon ses propres mots, ne peuvent plus être donnés. Ses créations vont au gré des dons de ceux et celles qui décident de se débarrasser de cette mythique pièce de vêtements avant d'en acheter d'autres. Difficile de savoir quel est l'impact environnemental de ce sauvetage. « Je ne suis pas bonne là-dedans », reconnaît-elle. « Je me dis chaque fois qu'il faudrait que je calcule pour avoir des statistiques de mon impact. » Elle se rappelle toutefois que récemment, elle a confectionné 16 robes sans manches en utilisant 50 jeans. J'ai vraiment un cycle de création complètement différent de celui d'un designer. Je vais m'inspirer de ce que je reçois à partir du textile. Plus j'en fais, plus je reconnais les textiles que je vais pouvoir utiliser. Pascale Villot confectionne presque tout elle-même à l'aide d'une employée à temps partiel. Je couds très vite, c'est un choix. J'aime bien que le produit ait un standard de qualité. C'est difficile d'assembler deux matières qui n'ont pas la même composition. Si elle ne manque pas de pièces de tissu et d'inspiration, quels sont donc les projets d'avenir de Pascale Villot? « Je sais que je suis un peu à contre-courant », répond-elle spontanément. « Généralement, les gens veulent grossir. Pour être dans le milieu de l'éco-design, je vois que les gens, quand ils grossissent, ça devient difficile et ils se détachent un peu de leur mission première. Ils ont de la misère à produire ici. Ils finissent par produire ailleurs. Ils vont quitter le textile récupéré pour aller acheter du textile. Il y aurait de la place à l'expansion, dit-elle. Mais ça ne peut pas devenir international. Je veux que ça reste à échelle humaine. J'aime bien avoir ma qualité de vie aussi. Pourquoi Pascale Villot? En 2024, les textiles arrivaient au 5e rang des catégories de déchets les plus envoyés au site d'enfouissement. En créant des vêtements à partir de tissus dont plus personne ne veut, Pascale Villot lutte à sa façon contre ce gaspillage. C'était Création et confection de vêtements en mode retaille. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
Les gestionnaires de carrière surreprésentés au sein des CA en culture. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir. Les affaires gèrent les affaires culturelles. Les gestionnaires professionnels ont la mainmise sur les conseils d'administration, CA, des sociétés d'État du Québec dans le domaine de la culture et des communications. La très grande majorité des membres, présidents et vice-présidents des CA, viennent du milieu de la gestion et du secteur privé en particulier. Sur 97 membres répertoriés par Le Devoir, 82 tombent dans cette catégorie au sens large. Même les perspectives des artistes et des créateurs n'ont quasiment pas voix au chapitre pour gérer les organismes des arts et de la culture, y compris les musées. La recension faite n'a permis de recenser qu'une poignée d'artistes professionnels parmi la centaine d'administrateurs. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ, qui distribue des bourses et des subventions aux créateurs et aux compagnies artistiques, en compte le plus. 3 sur 13 membres, un photographe, un musicien et un plasticien. On peut ajouter une architecte à la retraite. L'absence d'artistes ou de créateurs dans l'ensemble me paraît d'autant plus problématique que les CA ont le mandat d'établir des planifications stratégiques des sociétés d'État, explique Tania Contoyani, présidente de l'Union des artistes, UDA. L'inclusion doit commencer au conseil d'administration, où se prennent les décisions, où s'établissent les grandes orientations. Le mois dernier, l'UDA et 5 autres syndicats de professionnels de la culture ont fait une sortie publique pour dénoncer la distribution de l'argent public qui leur semble bénéficier à certains groupes industriels au détriment des artistes et des artisans qui sont au cœur de la création. Les dépenses combinées des sociétés d'État culturel totalisent des milliards de dollars depuis le début du siècle. Rien qu'entre 2018-2019 et 2022-2023, le CALC a distribué environ 850 millions, dont 745 millions aux organismes artistiques et 105 millions en bourses aux individus. 1 %, 2 % ou 3 %. La liste des administrateurs étudiés par Le Devoir se concentre sur 9 sociétés d'État du Québec. On y retrouve tout l'alphabet de soutien des arts et de la culture par l'État québécois, 2 centres de diffusion des arts de la scène, Place des Arts, Grand Théâtre de Québec, 3 musées, Musée d'art contemporain de Montréal, Musée national des beaux-arts du Québec, Musée de la civilisation, l'organisme de soutien aux entreprises, SODEC, et celui qui soutient les compagnies artistiques et les artistes, CALC, le Centre du patrimoine documentaire national, BANQ, et le télédiffuseur public, TQ. Beaucoup de membres de leur CA travaillent ou ont longtemps travaillé pour des entreprises privées. KPMG, Saputo, Sidley, Norton Rose, le groupe Germain, Dufresne et Gauthier, groupe Dallaire, etc. On y compte 16 avocats, souvent diplômés en droit des compagnies, 12 comptables et 7 détenteurs d'une maîtrise en administration des affaires, MBA, mais aussi 6 ingénieurs. Par contraste, on ne trouve que 7 professeurs d'université, mais là encore, dans les mêmes spécialités, comptabilité, droit, gestion des arts. Une seule personne a été formée en littérature, une autre en géographie et une en design seulement. Là encore, ces diplômés atypiques ont bifurqué ensuite vers la gestion d'organismes publics ou privés. Le peintre Marc Séguin, d'ailleurs un des artistes visuels les plus impliqués dans les affaires avec les ateliers 33-33, s'avère le seul de la centaine de membres présents à deux conseils, CALC et Musée d'art contemporain de Montréal, selon les listes disponibles en ligne. Depuis 2011, la loi sur la gouvernance des sociétés d'État exige la parité homme-femme. Elle forme maintenant une grosse majorité des CA culturels avec 58 postes pour 39 occupés par des hommes. 5 femmes, mais 4 hommes président un conseil. Reste que, dans un genre comme dans l'autre, on parle bien d'extraction de la même matrice gestionnaire. Vous écoutez « Les gestionnaires de carrière surreprésentés au sein des CA en culture », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir. Des nuances. Que des pros de la gestion siègent au CA de la culture, rien de plus normal. Que tous les membres, ou presque, soient de cette eau utilitariste et que les artistes n'y soient pas, peu étonné. Alors, pourquoi les CA des sociétés d'État favorisent-ils toujours le même profil professionnel en excluant les représentants des groupes communautaires, des syndicats, des contribuables ou des artistes? Le Canada a calqué le modèle américain où les musées sont des organismes privés, répond le professeur Yves Bergeron, titulaire de la chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit de la culture de l'UQAM. Il cite le cas type du Musée des beaux-arts de Montréal, qui n'est pas une société d'État, créature du milieu des affaires au 19e siècle et qui l'est demeurée en bonne partie. On attend des membres des CA, des musées, qu'ils aient des entrées dans le monde économique et financier pour que ces milieux les soutiennent, dit le professeur Bergeron. 5 autres professeurs spécialisés en gestion des organismes culturels n'ont pas répondu à la demande d'entrevue. Le Musée national des beaux-arts du Québec réplique qu'au contraire, les membres de son CA reflètent bel et bien la mixité des expériences au Québec. Les compétences de nos administrateurs couvrent un vaste éventail de la diversité socio-économique du Québec, comme la recherche, l'enseignement, le tourisme, les hautes technologies, la médecine, l'engagement social et bien plus, écrit par courriel Linda Tremblay, responsable des relations de presse du musée. Le Musée de la civilisation de Québec, MCQ, nuance aussi l'observation sur le concentré de perspectives des affaires. Le CA du MCQ est diversifié, résume Anne-Sophie Demmel, relationniste de presse du musée. Elle a préparé son propre tableau d'analyse de la composition de son CA selon compétences et expériences. Sur les 11 membres, en ne comptant pas le directeur général, 6 viennent de l'économie et 4 de la culture, tous comme gestionnaires, et 1 du milieu éducatif, Nicole Obamsawin. L'explication du ministère de la Culture concernant le manque de diversité des gestionnaires renvoie au décret du 31 mai 2023 obligeant les sociétés d'État à constituer leur CA à compter de 2025 en incluant au moins un jeune de moins de 35 ans et des membres représentatifs de la diversité de la société québécoise. La règle vise précisément les Autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques ainsi que les personnes handicapées. En ce moment, environ 13,5% des membres de l'ensemble des CA sont considérés comme représentatifs de la diversité telle qu'elle a été définie, mais certains CA sont encore en défaut de conformité dans ce cas, dont celui de la SODEC. Les règles imposent des normes diversitaires, égalité, diversité, inclusion, sans tenir compte de différentes catégories socio-économiques ni de la multiplicité des parcours socio-professionnels. Méthodologie. Le Québec compte 50 sociétés d'État, dont plus de 20% dans le camp culturel. Les statistiques colligées ici portent donc sur 9 de ces 11 organismes publics. Les conservatoires d'art dramatique et de musique et la Commission de la capitale nationale, soit une école et un centre de gestion urbain et patrimonial, ont été exclus des calculs qui n'incluent pas non plus les directions des organismes, le directeur de musée par exemple, membre des CA d'office. Le Musée des beaux-arts de Montréal n'est pas une société d'État. Les membres sont officiellement nommés par le Conseil des ministres sur la recommandation du ministère de la Culture et des Communications après des consultations auprès d'organismes socio-économiques et culturels. Les mandats sont de moins de 4 ans en général. Les administrateurs sont nommés par le gouvernement et rémunérés. Un décret du 15 mars 2023 accorde 31 800 $ par année pour la présidence du CA de la SODEC et 21 200 $ pour celle du CALC, de la BANQ, des musées d'État ou de TQ. Les autres membres reçoivent 15 900 $ dans un cas et 10 600 $ dans l'autre, en plus des primes pour siéger dans des comités ou les diriger de 2 800 à 8 400 $. C'était « Les gestionnaires de carrière surreprésentés au sein des CA en culture », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir.